Un point, c'est tout.
Toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Planty à Écuyer, le coworking rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. La fin de l'été approche et déjà, l'automne commence à s'installer, accompagné de bourrasques pluvieuses et de feuilles mortes tourbillonnantes. Le passage d'une saison à l'autre s'effectue par à-coups, brouillant nos perceptions, nous obligeant à changer de tenue au rythme des soubresauts climatiques. Pourtant, à y regarder de plus près, quelques fleurs résistent gaillardement et nous offrent leur lumineuse floraison, à l'instar de la bourrache et de sa cousine, la vipérine, nos deux plantes invitées du jour. Dans cette émission, nous aurons le plaisir d'écouter une interview, celle de Kevin, producteur de semences bio à Germinance, que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur site. Enfin, la chronique « Le bonheur est dans les simples », dans laquelle Laura nous parlera des utilisations de la bourrache. Mais avant cela, débutons en poésie. Enfin, nouveauté. Comme chaque jardin, c'est aussi un refuge merveilleux pour les oiseaux. Chaque émission nous fera découvrir le chant d'un oiseau du jardin. Aujourd'hui, nous serons accompagnés, c'est mon chant préféré personnellement, par le chant mélodieux de la grive musicienne. Parmi le vert et la floraison, de toutes les plantes les plus belles, je flâne, je délibère ici, je rêve par là. L'heure s'arrête, ou plutôt s'étend pleinement, se déplier et s'amplifier. Ces tournoiements et ondulations soudaines de brise d'été envoient tous les parfums dans l'air chaud. Contempler une feuille ou le motif sur le mur, créé par des branches les plus près. Ces têtes-là, de fleurs dansantes, exposent délicatement toute leur gloire. Quelle simplicité à se perdre, et quelle aisance à respirer doucement, et quelle aisance à avoir des pensées profondes. Quel bonheur de démarrer cette nouvelle saison en poésie avec la poétesse anglaise Chloé Douglas et son poème « À l'intérieur de mon jardin », écrit en 1995. Si la pandémie de Covid nous a invités à renouveler et réinventer notre perception du monde vivant, les Jeux Olympiques de cet été nous rappellent avec bonheur que nous sommes corps et esprit étroitement mêlés. Dans la vie non virtuelle, la vraie, sur Terre, notre corps sensible est un allié précieux qu'il faut bichonner avec amour. Il vous le rendra au centuple. Pour cela, rien de tel qu'une balade dans son jardin, dans un parc, à la campagne ou en forêt, qu'importe. En cette période de reprise, quelle bonne idée de profiter du soleil automnal et de faire sa pause au vert et au grand air. Ou même d'organiser une réunion en marchant. Vous verrez comme vous deviendrez efficace et créatif. Peut-être aurez-vous la joie de croiser les pétales bleus éblouissants d'une bourrache au détour d'une ruelle ou à travers la grille d'un jardin. Allez, il est temps de retrouver la bourrache et ses cousines. La bourrache au nom râpeux arbore le bleu des cieux, le rose de la pudeur et l'innocence des fleurs. Pourquoi ce nom d'herbe à vache, ce patronyme bourru, à poil, soudain lâche un latiniste barbu? Tout soudain, on s'interloque, attentat à la pudeur. Le latiniste se moque, voyons, mais n'ayez pas peur. Notre-Dame très velue tire son nom du latin bora, j'en ai la berlue. Veut dire poil, c'est certain. Aussitôt, tous ont congratulé ce barbu féru de latin, mais qui n'est certes pas les mules du ridicule trissotin. Cet amusant poème de Michel Corti est un excellent préambule pour présenter la bourrache et comprendre l'origine de son patronyme. Comme la consoude que nous avons déjà rencontrée précédemment, la bourrache fait partie de la famille des Boraginacées, un nom dont l'origine latine bura évoque une étoffe grossière à poils longs. Et oui, vous l'aurez compris, cette famille est à contre-courant de la tendance actuelle de l'épilation ou autre technique antipileuse, puisque tous les organes se complaisent à être velus des racines aux feuilles. Seuls les pétales restent imberbes. Cette particularité lui vaut le surnom de bourse à berger, boursette ou encore langue de vache. Cette stratégie pileuse est un moyen très efficace pour gêner l'arrivée et le déplacement des insectes. Car, il faut l'avouer, les feuilles et les tiges gorgées de sève sucrée et de mucilage attisent la convoitise de nombreux insectes affamés, attirés par ces plantes juteuses et appétissantes. Grâce à ses poils raides et piquantes, la bourrache repousse même les limaces, qui ne peuvent plus glisser et grimper librement sur les tiges. Une plante à inviter sans hésiter dans vos potagers, surtout avec les courges. L'ingéniosité des plantes m'époustoufle toujours. La bourrache, Borago officinalis, n'est pas difficile. Elle se plaît dans tous les milieux, des plus secs et caillouteux, comme les friches, les terrains délaissés par les humains, aux milieux les plus riches, tels les potagers et les jardins naturels. Sa préférence va toutefois aux espaces ensoleillés et calcaires. Parfois considérée comme envahissante, elle a la capacité de développer plusieurs cycles dans l'année. Dans la cour du plantis, nous observons de nombreux petits pieds, alors que la fin de l'été est bien entamée. En quelques jours, des tapis de rosettes de feuilles velues ponctuent joyeusement le sol. Sans y prendre garde, du jour au lendemain, elles déploient leurs tiges dressées, plus ou moins ramifiées, sur laquelle se superposent des étages de feuilles à la taille de plus en plus réduite. Certaines, trop présomptueuses, veulent dépasser les autres et perdent l'équilibre et se trouvent réduites à ramper au sol. Puis, les boutons floraux s'ouvrent et déplient leurs fleurs à la tête courbée vers le sol. Et quelles fleurs gracieuses ! Ces cinq pétales soudés, d'où jaillissent les étamines noires et luisantes, telles une pointe de stylobille. Elles évoquent l'envol d'un insecte. De fait, on surnomme aussi la bourrache fleur étoile ou pinson des jardins. Si vous tardez trop, il sera trop tard, car dans la nature, rien n'est dû au hasard. La silhouette élancée, étoilée, si graphique, n'a qu'un objectif : être fécondée par un insecte butineur pour libérer une profusion de minuscules graines noires, parfois des milliers par plante. Une fois sa mission remplie, la plante ne gaspille plus son énergie à séduire et se dessèche aussi soudainement qu'elle s'est déployée. C'est ainsi que la bourrache se ressème et germe toute la belle saison avant de s'esquiver à l'abri dans le sol pendant la période hivernale. Une merveille d'efficacité. Vous trouvez que la bourrache se multiplie trop ? Pas de souci, ramassez-les pour les cuisiner, car ce serait du gâchis de les mettre au compost. La bourrache et ses cousines vipérines et buglos sont de merveilleuses plantes à semer dans vos jardins. Vous profiterez ainsi de leur magnifique floraison. En parlant de graines, je vous invite à écouter l'interview de Kevin, producteur de semences à Germinance, basé à Rive-du-Loir. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Tu es artisan semencier biologique de l'entreprise Germinance. C'est l'occasion de raconter l'histoire de cette entreprise, comment elle est née, aujourd'hui, quelle est son activité, comment ça se passe.
Alors Germinance, elle a bientôt 40 ans, donc elle est née dans les années 1985. Au départ, c'est un jeune maraîcher biologique et biodynamique qui ne trouvait pas les semences de qualité en France. Et qui s'est dit, je vais les produire d'abord pour moi. Et en général, quand on produit des semences, on en a toujours trop. Donc, il les a après diffusées auprès des professionnels. Et puis après aussi, après des particuliers. Et puis aujourd'hui, 40 ans après, on est 5 personnes à travailler toute l'année ici. Et on travaille avec un réseau d'une cinquantaine de producteurs, donc dans toute la France. Donc, des petits producteurs, donc c'est des fermes à taille humaine, des hommes, des femmes, des GAEC, des groupes. Ou pas. Et le travail du semencier, de l'artisan semencier, en fait, ça va être de placer les contrats, donc de dire avec chaque producteur bah, qu'est-ce qu'on va produire comme semence cette année, de faire un suivi technique sur le terrain, et puis après, on va récupérer les récoltes. Et à l'entreprise, il y a tout le travail de tri des graines. Donc on a différents outils. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le tamis. Après le tri des graines, on va tester la germination. C'est-à-dire qu'on va mettre 50 graines en essai pour voir comment elles germent, si elles germent suffisamment bien pour être vendues. Une fois que le test est validé, on va pouvoir les conditionner, c'est-à-dire préparer les sachets. Donc c'est souvent à la main qu'on fait les sachets. Et puis après, c'est vendu par correspondance, donc sur Internet ou catalogue papier, aux particuliers et aux professionnels.
Oui, je trouve ça intéressant de ne pas justement séparer quelque part, parce que souvent on a l'impression en agriculture que les semences professionnelles c'est une chasse gardée, puis que le particulier ça rentre que dans le domaine public, quoi. Et donc vous commercialisez à peu près combien de variétés?
On a plus de 750 variétés qui sont commercialisées, donc principalement des légumes, mais on a aussi une gamme assez étendue de plantes aromatiques et médicinales, des fleurs et des engrais verts. Alors toutes nos semences, elles sont biologiques. Elles sont paysannes, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à tout le monde. Elles ne sont pas protégées par un brevet ou autre protection. Elles ne sont pas hybrides F1 ni OGM. C'est-à-dire que n'importe qui, avec les bonnes techniques, peut les reproduire dans son jardin. Elles appartiennent vraiment à tout le monde.
C'est important. Ça aborde le volet patrimonial,
oui.
Quelque part.
Et puis aussi autonomie. C'est important de ne pas dépendre du semencier. Donc ça, c'est un peu le penchant des semenciers modernes. Avant, chaque paysan avait ses propres sélections et ses propres variétés. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de variétés à l'époque. Autour de chaque ville, bah, il y avait les variétés régionales. Actuellement, on a perdu beaucoup de diversité. Donc les artisans semenciers sont importants pour remettre en circuit les variétés, mais les variétés qui sont intéressantes. Ce qui ne plaît pas n'a pas lieu d'être cultivé encore actuellement. On n'est pas conservatoire. Donc nous, on va vraiment remettre en culture les variétés dites anciennes. Mais par contre, on va avoir un travail de sélection dessus pour qu'elles s'adaptent aux conditions modernes. C'est-à-dire, le climat n'est plus le même, les techniques de culture sont plus les mêmes, les goûts sont plus forcément les mêmes non plus. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de remettre en circulation tout ce qui peut être intéressant pour la bio, donc avec le côté rusticité. Parce qu'on travaille vraiment dans des conditions... comme le jardinier, en fait, même nos maraîchers, c'est pas très intensif. Donc, il faut des variétés qui soient rustiques, qui poussent bien dans n'importe quelle condition. Et puis, l'avantage des variétés population, c'est qu'elles peuvent être sélectionnées sur le terroir. Donc, le jardinier ou le maraîcher qui achète des semences population, il peut les cultiver dans son jardin et faire ses graines sur place. Et là, il va avoir des graines adaptées à son terroir. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment le gros avantage des semences population, c'est qu'elles peuvent voyager et s'adapter sur n'importe quel territoire.
Oui, c'est important parce qu'on voit bien que chaque année, on voit bien qu'on n'a pas forcément la même météo, etc. Et donc, effectivement, je trouve que c'est intéressant de sélectionner des plantes qui sont, j'ai envie de dire, moins dans la performance, mais plus dans la robustesse.
Ouais, c'est exactement
ça.
Elles sont beaucoup plus résilientes qu'une variété. En fait, on compare les variétés modernes à des Formule 1. Donc, sur un circuit de Formule 1, bah, ça roule très vite, c'est hyper efficace. Mais sur les petites routes de campagne, bah, c'est beaucoup moins performant qu'une variété, que nos variétés population biologique qui sont sélectionnées chez nos producteurs. C'est évident. Et puis, le fait de les sélectionner tous les ans, comme tu dis, la météo, elle change d'année en année. Donc, tous les ans, on va leur apprendre, entre guillemets, de nouvelles façons de résister, de nouveaux éléments. Et elles vont les intégrer, puis les transmettre à la génération suivante. Donc, plus on multiplie, plus on amène de la rusticité, de la résilience dans les variétés. Donc, il ne s'agit pas de sortir des variétés du frigo tous les 5 ans. Il faut vraiment les mettre tous les ans ou tous les 2 ans en multiplication et en sélection.
Comment vous abordez ce lien avec, j'ai envie de dire, la nature, entre guillemets, sauvage?
Nous, on fait partie de la nature, de toute façon. Donc, on s'exclut pas de la nature, on en fait vraiment partie. Et quand on est arrivé, on est passé en refuge LPO. Donc, le point de départ, c'était ce désert vert. Et 5 ans après, donc, on a refait un inventaire botanique, entomologie, les insectes, les oiseaux. Et il y a une évolution qui est assez notable, assez importante, quoi. Et du coup, c'est très important d'introduire de la biodiversité cultivée ou sauvage au jardin, au potager, n'importe où en fait. Dès qu'il y a de l'herbe, bah ça suffit pas, c'est beaucoup trop pauvre. Faut rajouter.
Ah bah c'est bien ça. J'espère que les auditeurs ont bien entendu qu'on n'est pas obligé de avoir d'un côté celles qui sont cultivées et de l'autre côté celles qui sont sauvages. Aujourd'hui, on parle de la bourrache et aussi d'ailleurs de sa cousine sauvage qu'on voit plus spontanément, la vipérine. Qu'est-ce qui pourrait motiver ces personnes-là pour acheter des fleurs comme la bourrache?
Alors, plus particulièrement pour la bourrache, nous on a la particularité d'avoir la bourrache bleue que tout le monde connaît et on a aussi une variété à fleurs blanches qui est beaucoup plus rare. Donc, avec les mêmes propriétés que la bourrache bleue, mais blanc. Donc, elle s'harmonise bien toutes les deux. C'est vrai que ça rajoute un peu de nuance dans ce bleu profond qu'est la bourrache. Et après, l'avantage des fleurs, c'est que c'est assez facile à cultiver. Et une fois que c'est en place, la bourrache, par exemple, une fois qu'elle est en place, elle reste. C'est une annuelle qui disparaît tous les ans. Par contre, elle fait une production de graines importante, qui est diffusée aussi par les fourmis. Donc, elle voyage grâce aux fourmis. Et après, on la retrouve partout dans chez soi, dans des endroits les plus incongrus même. Donc, les fleurs sont faciles à vivre et elles amènent à la fois, elles attirent les pollinisateurs qui vont appeler polliniser au jardin. Par exemple, les courgettes ont besoin des abeilles pour former des belles courgettes. Et puis, elles attirent aussi les auxiliaires. Donc, les auxiliaires, c'est les amis du jardinier, c'est-à-dire c'est des insectes qui vont venir parasiter ou manger des insectes que le jardinier ne veut pas dans son jardin. Donc, en fait, la fleur, elle est indispensable au potager. On peut la mettre dans les légumes ou en bout de planche ou à côté, mais il faudra que ça reste à proximité des légumes.
Ah, bah, c'est sur ce très beau mot fleuri qu'on va conclure cette interview. Bah, merci Kevin d'avoir reçu.
Merci Claudie.
La bourrache est une excellente plante mellifère, d'où son surnom de pain des abeilles. La durée de sa floraison, sans cesse renouvelée d'avril à septembre-octobre, alliée à la richesse de son nectar, font qu'elle est appréciée des abeilles et des apiculteurs pour élaborer des miels multifloraux. Cependant, les abeilles ne sont pas les plus habiles pour féconder les bourraches. Grâce à leur vol plus vibrant et régulier, les bourdons captent plus facilement le pollen et sont avantagés. Les abeilles préfèrent à la bourrache sa cousine, la vipérine, Echium vulgare. Velue comme sa cousine, la vipérine est en outre plus présente naturellement en Europe du Nord, sur le bas-côté des routes et des chemins. Comme la bourrache, elle peut produire jusqu'à 2000 graines par pied. Plante bisannuelle, elle passe sa première année à faire des réserves, une stratégie payante puisque cela lui permet de produire de plus nombreuses fleurs, dont la forme rappelle celle d'une gueule de serpent, à l'origine de son nom vipérine. Les inflorescences en grappes portent de nombreuses fleurs aux tons bleus plus soutenus que celles de la bourrache. La floraison de la vipérine est plus concentrée de août à octobre dans nos contrées. Les bourdons, les papillons et surtout les abeilles sont fous de cette fleur riche en nectar. C'est ainsi qu'une parcelle de 1 hectare de vipérine peut générer de 300 à 400 kilos de miel, de quoi faire rêver plus d'un apiculteur. Allez, parlons de fleurs en chanson avec Petite Fleur, reprise par la chanteuse canadienne Jill Barbers.
Si les fleurs qui bordent les chemins fanée toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. jardin d'amour, petite fleur.
Sur 101.5 FM dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. D'origine syrienne, la bourrache a été rapportée par les morts en Espagne et aussi par les croisés de retour de Damas. Les chevaliers la brodent sur leurs écharpes et pour combattre, boivent du vin de fleurs de bourrache. Son usage médicinal et culinaire est très ancien, puisque déjà les soldats romains buvaient du vin euphorisant à la bourrache pour se donner du courage avant une bataille décisive. Dans la médecine arabe, la bourrache est réputée tempérer la mélancolie des êtres tristes, tourmentés par les fantômes. Elle est aussi génératrice de bon sang. Au Moyen-Âge, on la nomme « herbe du grand pot » car elle bonifie le sang et lâche le ventre. La plus ancienne école de médecine en Europe, l'école de Salerme, créée au IXe siècle, a accueilli au XIIe siècle le célèbre médecin Platerius, qui évoque la bourrache de cette façon. La bourrache, la vipérine et la buglaos bonifient le sang. Il faut en donner à ceux qui relèvent de maladies, à ceux qui ont tendance à tomber en pâmoison, à ceux qui ont des maladies du cœur, et à ceux qui souffrent d'humeur mélancolique. Il faut leur en faire manger avec de la viande ou tout autre aliment cuit, avec de la graisse, ou même cru, pour garder la mémoire. Il convient de manger souvent cette herbe. La bourrache est célébrée sous le nom de fleur joyeuse, ou d'herbe de joie, car elle est avant tout, vous l'aurez compris, porteuse de courage et surtout de bonheur. Ces fleurs, tout particulièrement, ont le pouvoir de rendre heureux. Sa devise, je soulage le cœur et j'enfante la gaieté. Les fleurs de bourrache calment la toux comme de nombreuses plantes velues et charnues telles la mauve. Elles réduisent les fièvres et épurent le sang. Infusées peu de temps, elles donnent une jolie couleur bleue aux tisanes. L'huile de bourrache en gélule s'utilise pour améliorer la santé de la peau et soulager notamment l'eczéma, en respectant les prescriptions médicales bien entendu. Les feuilles en cataplasme soignent les rhumatismes, elles facilitent le transit. Pour cela, rien de compliqué, il suffit de les cuisiner. Une façon très simple, somme toute, de se soigner avec le plaisir des saveurs. Avant de parler cuisine, retrouvons Laura dans la chronique Le Bonheur est dans les simples pour nous parler des utilisations de la bourrache.
Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la bourrache. Comment la cultiver pour ses graines et en extraire son huile par pression à froid? Classée parmi les plantes à parfum aromatique et médicinal, la bourrache est une plante délicate de type méditerranéenne très peu cultivée, qui se récolte entre la fin juillet et la mi-août. Cette petite plante, originaire du sud de la Méditerranée, est connue depuis le Moyen-Âge pour ses propriétés médicinales. Aujourd'hui, on privilégie la production d'huile de bourrache grâce à ses graines riches en oméga 6. La culture a été relocalisée en vallée du Célé. Un partenariat a été créé entre le laboratoire Nutergia et un groupement d'agriculteurs. C'est assez exceptionnel pour ce laboratoire qui se tourne vers une filière locale pour créer ce produit. Après 3 ans d'expérimentation dans une dizaine d'exploitations de la vallée du Célé, il a été possible de fournir ces graines de qualité. Cette première production, sur une surface de 29 hectares, a été cultivée en agroécologie. 4,8 tonnes de graines ont été récoltées. Au vu de cette bonne marge de production, la récolte est amenée à augmenter. Un producteur français de bourrache témoigne qu'il est assez exceptionnel de cultiver, de transformer de la bourrache en France. C'est extrêmement rare aujourd'hui. La culture de cette plante, qui pousse spontanément dans nos régions, ont toutes été délocalisées en Chine. D'où provient aujourd'hui 99,9% des huiles de bourrache distribuées dans le monde entier. La qualité de ces huiles chinoises, la plupart du temps raffinées ou oxydées, car c'est une huile végétale extrêmement sensible à l'oxydation. La bourrache pousse sans souci dans tous nos jardins. Par contre, elle ne résiste pas aux températures négatives. Elle disparaît avec les gelées et se cultive comme une annuelle. Mais la plante se ressème d'elle-même après floraison d'année en année. De culture facile, elle apprécie les sols profonds, humifères, légers, pas trop secs, à frais. Bien les graines de bourrache se sèment directement en place après les dernières gelées vers le mois de mai. La récolte des graines, elle se récolte entre juin et octobre, juste avant leur complète maturité. On fait sécher la plante entière à l'ombre. Ensuite, on égraine la plante soit en la battant sur un tissu et on ramasse les graines tombées, ou en la roulant sur un tamis. Ainsi récoltées, les graines peuvent être conservées ou vous pouvez les presser à l'aide d'une presse à noix ou une presse pour oléagineux. Les graines de bourrache sont riches en acides gras insaturés. On en tire une huile aux propriétés antioxydantes, raffermissantes et protectrices très efficaces contre le dessèchement cutané, pour atténuer les rides ou soigner certaines dermatoses comme l'eczéma. L'huile s'applique sur la peau, mais également est consommée à raison d'une cuillère à café d'huile par jour.
Consommées crues et fraîches en salade, les feuilles de bourrache, riches en vitamine C et A, surprennent par leur saveur d'huître ou de concombre, ce qui lui vaut le surnom d'herbe à concombre. Si les poils vous dérangent, vous pouvez laisser les feuilles tremper quelques minutes dans l'eau tiède pour les ramollir. Les fleurs, quant à elles, égaient les plats, de leurs étoiles bleues, associées à l'éclat jaune des capucines, c'est un ravissement. Il est possible d'en faire des confiseries. Les feuilles se consomment cuites de la même façon que les épinards, ce qui est pratiqué dans le sud de l'Europe. Elles s'utilisent en omelette ou en potage. Les feuilles et les fleurs se consomment aussi confites dans le vinaigre. On fabrique du sirop de bourrache à partir du jus de plante entière. Pour conclure cette émission, une petite recette de gougère à la bourrache, la plante du bonheur. Hacher et cuire à la poêle 5 belles feuilles de bourrache. Faire bouillir un quart de litre d'eau avec 50 ml d'huile d'olive salée et poivrée. Verser le liquide d'un seul coup dans 125 g de farine. Remuer énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Ensuite, incorporer 4 œufs entiers, un par un, jusqu'à ce que chacun soit complètement mélangé. Ajoutez alors les feuilles de bourrache et 100 g de parmesan. Disposez sur une plaque des petits pâtés à l'aide de 2 cuillères et enfournez 25 minutes dans un four à 180 degrés préalablement chauffé. Une bonne idée pour l'apéro de ce week-end. Que du bonheur et bien meilleur que du saucisson, croyez-moi. Cette émission est terminée. Avant de nous quitter, vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Bien sûr, vous pouvez écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Vous pouvez même écouter sur 2 pages. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Christelle et moi vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle plante.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.